Vous écoutez, on lit pour vous.
Québec intervient pour encadrer certaines pratiques commerciales. Un texte de Marie-Ève Schaeffer, paru le 13 septembre 2024 dans Protégez-vous. Un meilleur affichage des prix. L'encadrement du pourboire, la gratuité des produits de 15 $ et moins en cas d'erreur de prix, des contraintes au crédit variable et pour les dettes sur un prêt auto. Ce sont là quelques-unes des mesures incluses dans le projet de loi 72 que le gouvernement du Québec vient de déposer pour mieux protéger les consommateurs. Avec le projet de loi numéro 72 intitulé « Loi protégeant les consommateurs contre les pratiques commerciales abusives et offrant une meilleure transparence en matière de prix et de crédit », le gouvernement souhaite encadrer certaines pratiques commerciales pour protéger financièrement les ménages. D'abord, Québec souhaite revoir les règles de l'affichage des prix dans les commerces, notamment à l'épicerie. Actuellement, la taxe s'applique si vous achetez une boîte de 3 beignes, mais elle tombe si la boîte en contient 6. Peu de consommateurs connaissent les nuances qui s'appliquent dans le secteur alimentaire. Avec les modifications à la loi, les marchands seront obligés d'indiquer clairement si les articles sont taxables ou non. Ils devront aussi préciser leur prix par unité ou par unité de mesure pour faciliter les comparaisons. Chez les détaillants, offrant des rabais à leurs membres, le prix courant et le prix réduit devront également être bien en vue pour éviter de mauvaises surprises aux caisses. En outre, le projet de loi augmente à 15 $ le montant étalon prévu par la politique d'exactitude des prix, établi à 10 $ depuis près de 25 ans. Ce rabais permet d'obtenir le remboursement partiel ou total d'articles lors d'un écart entre le prix affiché et le prix facturé à la caisse. Québec encadrera également les demandes de pourboire en obligeant les commerces à proposer un calcul de celui-ci avant taxe. Les options de pourboire plus élevées ne pourront plus être mises en évidence par rapport aux autres. Halte au surendettement. Les fournisseurs de crédit variable, cartes et marges de crédit, auront eux aussi à s'ajuster. Ils devront désormais détenir un permis délivré par l'Office de la protection du consommateur, OPC, comme c'est le cas des prêteurs d'argent. Les différents frais connexes devront être inscrits clairement dans le calcul du taux de crédit offert, à l'exception de certaines cartes de crédit. De plus, il sera interdit aux commerçants d'offrir une limite de crédit supérieure à celle demandée par le client. Les soldes impayés, transférés lors de l'achat d'un nouveau véhicule, les fameuses « balloons », seront pour leur part encadrés par un éventuel règlement posant des conditions strictes. Par ailleurs, la vente itinérante de certains produits et services dont des appareils de chauffage ou de climatisation, l'isolation ou la décontamination sera interdite. De plus, les commerçants ne pourront plus fournir leurs services avant l'expiration du délai de 10 jours permettant aux consommateurs de changer d'idée. Enfin, la responsabilité financière des personnes victimes de fraude sur leur carte de débit sera plafonnée à 50 $. Une politique bien accueillie. Avocat et analyste pour Option Consommateur, Alexandre Plourde applaudit le projet de loi. Des lacunes feront peut-être surface pendant son étude, nuance-t-il, mais il s'agit d'un excellent point de départ. Le projet contient des mesures qu'on demande depuis plusieurs années, souligne-t-il. C'est un projet de loi positif pour les consommateurs qui s'attaque à des irritants et qui colmate des brèches dans la loi sur la protection du consommateur. Maître Plourde se réjouit de la plus grande transparence imposée aux marchands. On a subi, ces dernières années, des hausses de prix des aliments qui se sont manifestées chez les épiciers par de nouvelles pratiques d'affichage, dit-il. Par exemple, des prix à la livre comparés avec des prix au kilo où il est impossible de bien mesurer l'éventuel rabais à moins d'avoir une calculatrice. C'est intéressant d'encadrer ces pratiques pour que les consommateurs fassent de meilleurs choix, dit l'avocat, même s'il aurait souhaité voir dans la loi des éléments encadrant de façon plus claire la réduflation. L'encadrement de la vente itinérante freinera certaines pratiques qui ont fait des ravages, avance l'analyste. C'est le genre de pratique commerciale qui donne lieu à beaucoup de fausses déclarations, déplore-t-il. Le consommateur réalise un achat compulsif de plusieurs milliers de dollars sans réfléchir. Option consommateur émet toutefois des réserves quant à l'efficacité des mesures encadrant le pourboire. La loi n'encadre pas le type de commerçant qui en demande, alors qu'ils sont de plus en plus nombreux à le faire, relève Maître Plourde. Le Conseil québécois du commerce de détail, CQCD, voit également le projet de loi d'un bon œil. Dans le contexte actuel où l'inflation et le coût de la vie continuent d'être une préoccupation pour les Québécois, il est important d'encadrer certaines pratiques pour éviter les excès. C'est souvent un réflexe rapide pour les consommateurs, mais on doit s'assurer de ne pas leur imposer de taux exagérés. Même chose pour plus de transparence sur l'affichage des prix. On se doit d'aider le client à faire les bons choix, affirme par courriel Damien Silès, directeur général de l'organisme. Difficile à appliquer. L'Association des détaillants en alimentation du Québec, ADAC, exprime, quant à elle, certaines réserves en ce qui concerne les règles d'affichage prévues et qui touchent ses membres. On comprend l'objectif du gouvernement, indique d'emblée son directeur des affaires publiques, Samuel Bouchard, mais on se questionne sur l'opérationnalisation de ces mesures. Comme un commerce compte en moyenne entre 20 000 et 30 000 produits sur ses étalages, grossir les étiquettes pour y afficher plus d'informations constitue un défi de taille, plaide-t-il, sans parler de la lourdeur administrative qui accompagne une telle opération. En ce qui concerne la politique d'exactitude des prix, Samuel Bouchard est d'avis que de faire passer le montant de référence de 10 à 15 $ fera mal aux commerçants. C'est l'irritant majeur dans le projet de loi. Ça touchera pour nos membres environ 90% des produits qui sont vendus, rappelle le directeur. Étant donné que leur marge bénéficiaire nette est d'environ 1,5%, c'est une différence importante, même si elle semble anodine. C'était « Québec intervient pour encadrer certaines pratiques commerciales », un texte de Marie-Ève Schaeffer, paru le 13 septembre 2024 dans Protégez-vous.
Une société d'héritiers, un texte de Mathieu Bellil, paru le 16 septembre 2024 dans La Presse. C'est un sujet dont tout le monde parle, l'accès à la propriété toujours plus compliqué. Pour ceux qui veulent acheter une première maison, la situation est décourageante. Les offres intéressantes sont rares et les prix flambent. Chaque année qui passe les éloigne un peu plus de leurs rêves. Dans Villeray, le quartier montréalais où ma conjointe et moi avons acheté un modeste duplex il y a 20 ans, il est clair aujourd'hui que nous ne pourrions plus rien nous offrir. Ces dernières années, les nouveaux acheteurs autour de chez nous sont des ingénieurs, des dentistes et des médecins qui agrandissent et rénovent, démolissent et reconstruisent. Les profs, les infirmières, les ouvriers et les fonctionnaires, ceux qui appartiennent comme nous à la moyenne de la classe moyenne, sont obligés de chercher ailleurs. Et je n'ai encore rien dit des plus démunis, frappés de plein fouet par l'inflation alimentaire et la pénurie de logements abordables. Au cours des deux dernières décennies, selon l'OCDE, le coût des maisons a grimpé trois fois plus vite que les salaires dans les pays développés. Si les propriétaires chanceux ont vu la valeur de leur patrimoine monter en flèche, les nouveaux acheteurs, le plus souvent issus des jeunes générations, subissent les contre-coups de cette hausse généralisée. Les revenus et l'épargne ne suffisent plus. C'est pourquoi de plus en plus de parents propriétaires prévoit aider leurs enfants à acheter un premier logis au risque d'alimenter la surchauffe. Dans les grandes villes canadiennes, la situation s'est considérablement dégradée. Le taux de propriété recule partout. Pour arriver à rembourser son prêt hypothécaire, il faut faire preuve de créativité. À Toronto, récemment, une petite annonce a fait jaser. Quelqu'un offrait en location non pas un appartement, ni même une chambre, mais la moitié d'un lit. Un lit queen, je le précise pour les intéressés, car c'est une femme qui proposait de partager avec une autre femme pour la modique somme de 900 $ par mois. Partout, on apprend à se débrouiller avec les moyens du bord. Mais la difficulté de se loger pousse toutes sortes de gens à la rue, y compris des salariés, si bien que les campements urbains se multiplient jusque dans les lieux les plus improbables. Je pense à Halifax, en Nouvelle-Écosse, où la situation est si catastrophique que le conseil municipal a dû autoriser plus d'un millier de citoyens campeurs à installer leurs tentes dans des parcs de la ville. On évoque souvent la hausse de l'immigration pour expliquer les problèmes actuels, mais c'est loin d'être la seule cause. En raison des coûts élevés de main-d'œuvre et d'emprunt, les projets de construction sont ralentis. La location à court terme, de type Airbnb, réduit l'offre de logements disponibles. La vie en solo, 19% des gens au Québec, contribue à la rareté. Et les grandes firmes d'investissement, locales et étrangères, occupent une part croissante du marché immobilier, favorisant la montée des prix. C'est le cas de la firme new-yorkaise Blackstone, qui achète et loue des logements partout dans le monde et dont les actifs immobiliers sous gestion atteignent désormais le billion de dollars américains, c'est-à-dire 1 000 milliards de dollars. Pour l'économiste et géographe Joël Kotkin, le modèle économique hérité des années d'après-guerre et qui a culminé durant les 30 glorieuses est en train de se lézarder. Partout en Occident, ce modèle a reposé sur l'accès à la propriété comme principal outil d'ascension sociale. Mais comme cet accès est de plus en plus compromis, les jeunes générations et les nouveaux arrivants risquent d'être condamnés au statut d'éternel locataire, en particulier dans les grandes villes, où de puissants propriétaires ont les moyens d'exiger des redevances toujours plus élevées en échange d'un logis. De telles iniquités, si elles se perpétuent, pourraient conduire à l'essor d'un nouveau féodalisme, suivant la formule de Kotkin, une ère marquée par la stagnation sociale et la montée du ressentiment. Au Québec, la crise actuelle menace d'effacer une partie des gains réalisés depuis la Révolution tranquille. Jadis, un peuple de locataires, l'un des plus pauvres en Amérique, les Québécois ont vu leurs conditions de vie s'améliorer depuis les années 1960, parfois jusqu'à l'embourgeoisement. Cette ascension quasi généralisée a profité aux baby-boomers et, dans une moindre mesure, aux X et aux premiers-nés de la génération Y, les milléniaux, qui ont contribué à la formation d'une société de transfuges et même, pour le dire avec Chantal Guy, d'un pays de transfuges de classe. Mais il semble bien que cette tendance s'essouffle, que cette période d'ascension soit davantage derrière nous que devant nous. Les récits de transfuges, si populaires à l'heure actuelle, décrivent une ère sans doute révolue. De plus en plus, la migration sociale devient l'exception plutôt que la norme. Comme le constatait avec justesse Marie-France Bazot dans un texte récent, l'ascenseur social est grippé au Québec. Depuis 40 ans, l'accumulation de richesses a donné naissance à une nouvelle classe de privilégiés, soucieuse de préserver sa position et ses avantages, au risque de conduire à de nouvelles formes de ségrégation. Les obstacles à la mobilité se multiplient, avec d'un côté les possédants, qui ont les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école privée et de se payer des soins de santé sur mesure, et de l'autre côté, ceux, les possédés, qui doivent se contenter de services publics défaillants parce qu'ils n'ont tout simplement pas les moyens d'exiger mieux. En somme, à une époque où le patrimoine financier n'a jamais pesé aussi lourd, tout indique que le Québec est en train de passer d'une société de transfuges à une société d'héritiers. C'était « Une société d'héritiers », un texte de Mathieu Bellil, paru le 16 septembre 2024 dans La Presse.
Trois questions sur la tarification dynamique d'électricité. Un texte de Marie-Ève Schaffer, paru le 1er octobre 2024 dans Protégez-vous. Vous voulez diminuer votre consommation d'électricité, mais vous ne voulez pas installer d'appareils intelligents dans votre maison? Vous pouvez alors opter pour le programme de tarification dynamique d'Hydro-Québec. Plus de 300 000 ménages ont pris part à ce programme au cours de l'hiver 2023-2024. Ils ont ainsi pu suivre en temps réel leur consommation d'électricité et la réduire pendant des périodes de pointe cruciales en hiver. Pour chaque kilowattheure qui n'est pas consommé, il y a un gain monétaire pour le client, indique Sandrix Bouchard, porte-parole d'Hydro-Québec. Comment le programme fonctionne-t-il? Comme le service de maison intelligente ILO d'Hydro-Québec, le programme de tarification dynamique vous propose des défis. Ils ont lieu du 1er décembre au 31 mars, entre 6h et 9h et entre 16h et 20h. Jusqu'à 33 défis peuvent être lancés pendant la saison froide pour un maximum de 100 heures. C'est à ces moments précis que vous pouvez réaliser des économies plus importantes en réduisant votre consommation d'électricité. Notez que la veille d'un défi, vous êtes avisé par courriel. Vous pouvez donc peaufiner votre stratégie pour le lendemain. Avec le programme ILO, vous devez acquérir des appareils connectés. Ceux-ci ne sont pas nécessaires avec la tarification dynamique. Vous devez vous-même diminuer la température de vos thermostats, entre autres. Notez que, si vous avez des appareils intelligents, vous pouvez quand même participer au programme de tarification dynamique. Vous relèverez plus facilement les défis. Quelle option choisir? La tarification dynamique comprend deux options. Crédit hivernal. Elle vous accorde des crédits lorsque votre consommation est à la baisse pendant les défis. Moins 55 sous par kilowattheure effacé par rapport à celle observée habituellement. Celle-ci est calculée selon la consommation récente d'électricité en période de pointe. Pour avoir droit à un crédit, la consommation doit être réduite d'au moins 2 kWh par événement de pointe. Les défis sont lancés pendant tous les jours de la semaine. Notez que vous pouvez vous inscrire en tout temps à l'option du crédit hivernal et qu'il n'y a aucun risque que votre facture augmente de façon importante. Flex D. Cette option vous propose plutôt un tarif réduit de 30 % pendant la saison froide, sauf pendant les périodes où le réseau d'Hydro-Québec doit répondre à une forte demande. Le prix de l'électricité atteint alors 55 sous le kilowattheure plutôt que de 6 à 10 sous pour le tarif D. Les défis ont lieu du lundi au vendredi. Avec cette option, il est possible de réaliser de plus grandes économies, mais le risque que votre facture d'électricité grimpe est élevé. Vous pouvez vous inscrire à cette option seulement entre le 1er avril et le 31 décembre. Combien pouvez-vous économiser? Pendant l'hiver 2023-2024, les consommateurs qui ont opté pour le tarif Flex D
ont vu leur facture diminuer de 135 $ en moyenne, alors que ceux qui ont choisi le crédit hivernal ont obtenu des réductions moyennes de 25 $. Pour réduire ainsi vos coûts d'énergie, Hydro-Québec vous propose en premier lieu d'abaisser de 2 degrés Celsius la température de vos thermostats pendant les défis. C'est avec les thermostats qu'on peut avoir le plus gros impact au Québec parce que c'est un point de consommation important. C'est autour de 50%, signale Sandrix Bouchard. Vous pouvez également retarder le cycle de la laveuse ou du lave-vaisselle. Évitez aussi d'utiliser la cuisinière pour la préparation des repas. Optez plutôt pour la mijoteuse, la friteuse à air chaud et le micro-ondes. C'était 3 questions sur la tarification dynamique d'électricité, un texte de Marie-Ève Schaffer paru le 1er octobre 2024 dans Protégez-vous.
Des bactéries racontent l'histoire de Montréal. Un texte d'Axel Dansereau-Massias paru le 26 avril 2024 dans Québec Science. Pilier de l'histoire montréalaise, le fort de Ville-Marie est au cœur de la mise en œuvre d'une méthode pionnière pour interpréter le passé grâce à la microbiologie. Les vestiges de la forteresse Ville-Marie, située aux abords du canal Lachine à Montréal, sont le lieu de fondation de la métropole. Ils sont aujourd'hui mis en valeur au musée Pointe-à-Calière, qui a récemment ouvert ses portes à des microbiologistes. Leur but? Échantillonner la terre du site archéologique à la recherche de micro-organismes du passé. Sous la direction de Cassandre Lazare, professeur en microbiologie à l'Université du Québec à Montréal, l'étudiante à la maîtrise, Marjorie Colette, a fait équipe avec les archéologues de Pointe-à-Calière pour mener une expérience inédite. L'équipe a collecté 3 carottes de terre sous les installations du musée, là où le sol est protégé des intempéries depuis la construction du fort en 1642. Les scientifiques y ont cherché des micro-organismes dont la présence pourrait confirmer certaines hypothèses archéologiques, en témoignant des différentes activités humaines ayant eu lieu sur le site. Des bactéries vivantes ou mortes? L'équipe a d'abord extrait le matériel génétique du sol, de l'ADN et de l'ARN, pour identifier l'ensemble des micro-organismes présents. Comme chaque souche bactérienne possède un ADN unique, tel un code-barre, il servira à les identifier. Mais comment distinguer les ADN de bactéries d'aujourd'hui de ceux datant d'une autre époque? C'est ici qu'entre en jeu l'ARN. Alors que l'ADN contient l'ensemble des gènes d'un organisme, une molécule d'ARN a le rôle de créer des copies de ces gènes. Les bactéries vivantes contiennent beaucoup d'ARN. Autre distinction importante, l'ADN est constitué de 2 brins de polymères, ce qui le rend plus résistant que l'ARN, ne possédant qu'un seul brin. Quand un micro-organisme meurt, il se fossilise comme les autres êtres vivants, explique la jeune étudiante. Ces bactéries fossilisées contiennent de l'ADN qui se conserve dans le temps, mais pas de brins d'ARN, car ceux-ci se décomposent beaucoup plus rapidement. La présence d'ARN indique donc aux scientifiques que le micro-organisme est encore actif. En d'autres mots, l'ADN et l'ARN des échantillons ont été séquencés, puis associés grâce à des bases de données à des genres connus de micro-organismes. Lorsque de l'ARN correspondant à ces séquences était également présent, Les bactéries en question étaient éliminées des données, puisqu'elles sont forcément contemporaines. Chaque type de micro-organisme aime un milieu précis, mentionne Marjorie Colette. Quand on a trié les bactéries, on en a retrouvé datant de la mer de Champlain, ajoute-t-elle. Cette époque, après la période glaciaire il y a 13 000 ans, où le sud du Québec était submergé par la mer, explique la présence de bactéries marines localisées dans la partie la plus profonde des carottes de terre. La vie dans le fort. Les données de l'étude viennent d'ores et déjà confirmer ou nuancer des hypothèses sur les activités anthropiques du site, estime Hendrik van Gijsegem, chargé de projets en archéologie et histoire à Pointe-à-Calière. Il y aurait eu des cultures potagères à l'intérieur du fort, explique-t-il, en se fiant aux résultats. En effet, certains fragments d'ADN retrouvés sont liés à des bactéries associées à l'agriculture. Quant à la présence d'ADN de bactéries associées aux régions minières et volcaniques, elle consolide le scénario d'une ancienne activité métallurgique. Plus de résultats à venir. La recherche ne fait que commencer. Les prochaines analyses incluront d'autres micro-organismes pouvant apporter plus d'informations ou, au contraire, infirmer certaines hypothèses. Bien que le séquençage de l'ADN du sol soit utilisé depuis longtemps en archéologie et en paléomicrobiologie, l'identification d'anciennes populations bactériennes est une nouvelle application intéressante de cette technique, selon l'équipe de recherche. Hendrik van Gijsegem est optimiste face à l'avenir de l'association de l'archéologie et de la microbiologie, deux approches qu'il juge complémentaires. Il se réjouit de pouvoir approfondir les connaissances historiques sur Montréal grâce à cette technique. Sans préjugés ni biais, les bactéries ne trichent pas. C'était « Des bactéries racontent l'histoire de Montréal ». Un texte d'Axel Dansereau-Massias, paru le 26 avril 2024 dans « Québec Science ».